Affaire suivante avec Laurent Vallier aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour, Alain.
Des fouilles, je le disais, deux nouveaux témoignages et des questions. Va-t-on retrouver le corps de cinq victimes d'Émile Louis et la liste de ces victimes va-t-elle encore s'allonger? Les réponses pourraient se trouver dans le tristement surnommé cimetière d'Émile Louis, un secteur boisé situé à Rouvray, dans l'Yonne. Père Lubouzet.
C'est en 1975 que Marie-Jeanne Ambroisine Coussin, mère de famille de 40 ans, disparaît sans laisser de traces. Il faudra attendre 2018 pour que l'on retrouve un bout de son crâne dans ce secteur situé non loin d'Auxerre. Les autorités y ont démarré de nouvelles recherches lundi dans le but de faire avancer le dossier. 450 gendarmes sont engagés dans ces fouilles particulièrement complexes.
Le terrain que nous avons à investiguer est à la fois une zone boisée extrêmement dense, hein, qui doit déjà être défrichée, et également aussi, vu la présence d'un rue et d'une rivière qui est attenante, la capacité exacte de traiter de la même manière également le milieu subaquatique.
Une zone à l'histoire et au surnom sinistre, le cimetière d'Émile Louis. Car celui que l'on surnommait le boucher de Lyon avait enterré plusieurs de ses victimes, non loin de l'endroit où a été retrouvé le morceau de crâne de Marie-Jeanne Ambroisine Coussin. Émile Louis avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité dans l'affaire des disparus de Lyon en 2004, avant de décéder en prison 7 ans plus tard. Si son ombre plane sur le dossier de Marie-Jeanne Ambroisine Coussin, il n'est à ce jour pas officiellement suspecté.
Laurent, sur le plateau d'affaires suivantes, nous accueillons Gilles Rex. Bonjour.
Bonjour.
Ancien major à la police technique et scientifique de la police judiciaire de Paris, par ailleurs, auteur de Parmi les morts aux éditions Mareuil. À vos côtés, Pierre Monnoir. Bonjour. Merci de participer à notre émission. Vous êtes ce que l'on appelle un lanceur d'alerte dans l'affaire des disparus de Lyon. Vous allez évidemment nous expliquer votre rôle en détail. Et Vincent Ventigam. Bonjour, Vincent.
Bonjour.
Grand reporter police justice BFM TV. Avant de vous écouter, j'ai une question pour Laurent, qui est ma Bible, sur le plateau également. Le nom d'Émile Louis, cette affaire des disparus de Lyon, ça marque les esprits. Comment vous qualifieriez à la fois ce nom et ces affaires? Ça marque quoi pour vous?
Ça marque... Émile Louis, c'est à la fois le pire, mais il y a derrière lui, comme une pièce à chaque fois, le meilleur. Le meilleur, c'est pas lui, c'est le gendarme Jambert. Parce que le gendarme Jambert, c'est lui qui va découvrir Émile Louis. C'est pas le premier tueur en série français. Hein. Le premier tueur en série français, c'est Landru, évidemment, et sa dizaine de femmes. Mais Landru aussi, il y avait un policier derrière Landru, hein, Jules Belin, il s'appelait. Et c'est lui qui décide qui invente, hein, dans le vrai sens du terme, cette affaire. C'est lui qui décide d'aller enquêter à Gambet et qui trouve. Et là, le gendarme Jambert, il va y laisser sa vie. Hein. On sait qu'il se suicide en 1997. La famille est persuadée que c'est un assassinat. C'est possible. La Cour de cassation a fermé tout ça. Mais c'est lui qui a découvert les disparus de Lyon et qui reste un des faits divers les plus tragiques des années 80.
Pierre Monnoir, racontez-nous. Je le disais, lanceur d'alerte, c'est votre étiquette médiatique.
Ça, c'est les noms que l'on donne maintenant, mais
exactement.
Je suis président d'une association de défense des handicapés de Lyon. Et cette association, je ne suis pas tout seul, il y a des gens qui travaillent, qui ont travaillé pour que cette affaire puisse sortir. Ça a été très compliqué, puisqu'il a fallu l'intervention de Jacques Pradel pour justifier le fait qu'il y avait des disparitions, etc. Alors, si on en arrive à maintenant, c'est-à-dire que ça fait quand même 33 ans, moi j'avais dit en 2000, il faut fouiller tout le secteur pour qu'on finisse cette histoire. Or, 20% ont simplement été fouillés, je n'ai pas été entendu.
C'est le bois de Rouvray.
Le bois de Rouvray, voilà. Par contre, il faut être très prudent. Actuellement, parce que ce n'est pas forcément Émile Louis. D'accord? Il y a eu d'autres tueurs en série qui sont passés sur le...
Fourniret,
Munsterman, etc. Et puis, il faut aussi savoir que, mais ça, le directeur d'enquête, j'espère, au niveau de la gendarmerie, est en train de travailler dessus. Il faut faire la périphérie de cette victime, Madame Coussin, que nous, on ne connaissait pas du tout. On n'a jamais entendu parler. Et puis, il faut savoir aussi que Émile Louis avait dans son sillage des gens beaucoup plus jeunes que lui. Alors, je dis ça pour l'instant. Il y a des gens qui travaillent dessus. On espère que la gendarmerie va aussi travailler dessus. Et qui peuvent être aussi des tueurs. Et qui sont peut-être encore en vie. Et ça, je pense qu'il faut être prudent en disant, bon, c'est le site d'Émile Louis, moi je veux bien.
Vous avez surnommé le cimetière d'Émile Louis parce qu'on ne sait pas... Vincent, peut-être pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, les dernières informations qui fait que nous parlons aussi de cette affaire et que nous revenons sur cette affaire.
Les dernières informations, en fait, c'est surtout la découverte de ce bout de crâne en 2018 qui appartient à Marie-Jeanne Ambroisine Coussin. Alors, effectivement, et vous l'avez bien signalé, il n'y a rien qui relie officiellement Émile Louis, qui est mort lui en 2013, à cette victime, si ce n'est que un bout de son crâne a été découvert dans le cimetière d'Émile Louis, là où il avait l'habitude d'enterrer ses victimes. Émile Louis, il a été condamné pour 7 viols et assassinats. On a retrouvé 2 de ses victimes dans ce bois, mais il y en a 5 qui sont toujours recherchés et on soupçonne qu'il ait fait davantage de victimes.
Oui, parce que pour expliciter un peu l'hypothèse de Monsieur Monnoir, c'est que Émile Louis, c'est 1975-1979, les 6. Hein. Ouais. Donc ça, c'est la période ancienne. Et lui, il avoue en 2000. Alors il avoue par un coup de bluff des gendarmes hein, qui lui font croire, parce qu'il a jamais rien avoué, il s'est rétracté après. Les gendarmes lui font croire que c'est prescrit et qu'il peut y aller. Donc il désigne ce bois en 2000. Le 18 décembre 2000. Donc votre hypothèse, c'est que depuis le 18 décembre 2000, on est en 2025 aujourd'hui, cet endroit qui est un endroit connu de la région comme étant le cimetière d'Émile Louis ait pu être utilisé par d'autres.
Oui, alors tout à fait. Et puis là, juste quelques jours avant le début des fouilles, 2 témoignages arrivent. Un par mon intermédiaire, où un pêcheur a trouvé un crâne et ben, par peur, par panique, etc., il l'a remis au même endroit. Donc, il a...
Ça, c'est vieux, par contre.
Pardon, oui, c'est vieux, 183. C'est vieux. À peu 83. Près, c'est estimé en 83. Dans un bras du serin. Il a donc fait un témoignage auprès de moi. J'ai transmis ça à notre avocat, Didier Seban, qui l'a transmis au procureur. La gendarmerie l'a entendu lundi dernier. Lorsqu'il a dit qu'il venait de ma part, on a dit, bon, on connaît pas Menoir, donc c'est déjà bien parti pour les enquêtes.
Ça peut arriver.
Ça fait sourire, oui. Ouais. Et puis, un autre, par un détective privé qui travaillait sur autre chose et qui a eu un témoignage qui a indiqué, lui, il a indiqué directement au procureur et la gendarmerie un endroit où des vêtements auraient été re-enfouis parce que les gens se sont dit, oh là là, on va être embêtés, robes, vieilles chaussures et collants.
Parce qu'on a trouvé énormément de vêtements.
Oui, alors plus de 200, à peu près 200 vêtements à l'époque en 2000.
Préciser les choses.
J'ai peut-être encore une petite information, c'est-à-dire que sur les aveux d'Émile Louis, 2 corps ont été retrouvés dans ce bois aussi. On n'en a pas parlé.
Oui,
donc c'est pour ça qu'on l'appelle le bois le cimetière d'Émile Louis, parce qu'effectivement, on a bien retrouvé déjà 2 corps. Et troisièmement, ce morceau de crâne.
J'ai 2 questions pour vous, Gilles Rex. Une sur les fouilles, ce qui va se passer, comment on peut retrouver, ce qu'on peut retrouver, ce qu'on peut identifier. Aussi longtemps après, mais une question plus aux flics de façon générale. On dit souvent qu'un type de profil comme Émile Louis s'arrête quand il est mort ou quand il est arrêté. Ce qui veut dire que le laps de temps entre le 75-79, le moment où il avoue, le moment où il est condamné, c'est un laps de temps important. Est-ce que ça veut dire qu'il est possible, envisageable en tout cas pour le policier que vous êtes, qu'il ait continué ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut paraître assez vraisemblable?
Oui, ça peut paraître tout à fait vraisemblable. En plus, il a migré, c'est-à-dire qu'il a fait la majorité de ses crimes dans Lyon, mais après, il est parti dans le Var. Et quand il est arrivé dans le Var, il y a quand même, selon moi, une période creuse.
Où
il a été condamné là-bas. Mais il y a plusieurs années, ou peut-être il a fait quelque chose.
Ou dans un camping, il y a une dame qui est décédée juste dans le camping, mobil-home d'à côté, et il n'a pas été accusé parce qu'il n'y a pas eu les preuves. Enfin, c'est des gens qui n'arrêtent pas.
Et puis le profil de ces victimes était aussi particulier. Ce sont donc des personnes qui sont en difficulté, ou physique, ou mentale, ou les deux. Donc,
vulnérables pour le
vulnérable.
D'ailleurs, on a beaucoup d'espoir dans l'enquête qui est autour d'Ambroisine Coussin de retrouver des éléments. Il y a eu beaucoup de décès de jeunes femmes qui ont quitté l'hôpital psychiatrique à une époque du même service, enfin, etc. Il y a tout un travail à faire qui n'a pas été fait à l'époque, mais il va falloir le faire parce qu'on n'est pas sûr que ce soit mis lui. Et qui dit qu'il n'y a pas encore un tueur qui est en...
Oui, ça, c'est votre... C'était d'ailleurs une des hypothèses du gendarme Jambert, hein, qu'il n'était pas tout seul, Émile Louis, qu'il avait des complices. Ouais. Et vous, votre hypothèse aujourd'hui, c'est que...
Ben, pour l'instant, on ne sait pas. Hein, donc, il faut qu'on nous apporte les preuves. À chaque fois, c'est la presse. Heureusement, vous êtes là, messieurs. C'est la presse qui sort toutes ces affaires. Sans la presse, il aurait continué. Hein.
La presse, c'est Vincent Lantiguem.
Il y a une forme d'archéologie judiciaire à effectuer aujourd'hui, parce que Marie-Jeanne Ambroisine Coussin, elle disparaît en 1976. Rendez-vous compte, on est quasiment 50 ans après aujourd'hui. Elle fait un séjour en hôpital psychiatrique, et puis ensuite, plus de traces d'elle. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce travail de recherche à effectuer aujourd'hui, et il y a ce laps de temps durant lequel Émile Louis a peut-être fait d'autres victimes. Alors c'est un laps de temps assez long, mais qui a été entrecoupé par des séjours en détention, parce qu'il faut le rappeler, avant d'être alpagué pour les meurtres et les viols, il a été condamné pour des faits d'attentat à la pudeur, parce que là, pour le coup, il avait
Et c'est vrai que sur Lyon, on traîne les pieds. Je veux dire, on a en 2018, la procureure de l'époque, qui était mutée, me dit, Monsieur Monnoir, on a trouvé un crâne, un haut de crâne, c'est féminin, etc. Il faut un test en parentalité. Il a fallu attendre quatre ans. Pour que le test soit fait, parce qu'il y a eu des pressions, il y a une conspiration du silence, je suis désolé, hein, mais qui est réelle, et cette histoire, je veux dire, 4 ans, et puis 2 ans après, pour recevoir les familles seulement...
Mais aujourd'hui, la justice...
Mais là, moyens. Voilà. Ouais.
Alors ça vous satisfait, j'imagine.
Ah bah oui, mais bon, il est temps.
Gilles Rex, emmenez-nous dans ce bois. Qu'est-ce qui va s'y passer? Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qu'on cherche? Comment on identifie? C'est l'ADN? Il faut me faire matcher? Qu'est-ce qui va... Alors on travaille sur les vêtements comme sur les restes humains?
Oui, voilà. Donc déjà, il va falloir en retrouver. Mais pour retrouver ça, il va falloir que les gendarmes qui sont là procèdent à un déblayage. C'est-à-dire, la configuration de ce bois a fortement évolué depuis toutes ces années. La végétation a changé, a bougé, a grandi. Et les racines sont partout. Donc, il va falloir qu'il fasse déjà un travail de déblayage pour arriver sur ces points qu'il soupçonne. Et puis, effectivement, pour rechercher des crânes ou des ossements de manière générale, il y a de fortes chances d'en trouver, hein, puisque des ossements ne disparaissent pas comme ça en quelques années. Hein, donc ça
même peut, après 50 ans.
Non, ça peut durer. Oui, ça peut durer. D'autant plus, là, c'est un milieu humide. Hein, on sait que c'est un milieu humide. Il y a un petit cours d'eau avec de la terre très molle. Il peut y avoir de l'argile. Et plus les ossements sont conservés en milieu humide, et plus ils se conservent longtemps.
Est-ce qu'on peut retrouver de l'ADN sur les vêtements? Parce que c'est vrai que l'ADN, c'est 1987, ouais. La première enquête en Angleterre. Est-ce que là, il n'y a pas d'ADN des victimes à l'époque et pour cause, mais il peut y avoir de l'ADN de parentèle avec les familles des victimes aujourd'hui ici. Est-ce qu'on peut retrouver, faire des comparaisons d'ADN
de, si, selon moi, si de l'ADN est retrouvé, ça sera sur des ossements retrouvés, pas sur des vêtements. Non, on peut pas quand même vendre tout et n'importe quoi. Hein, voilà, il y a des choses qui sont, selon moi, impossibles au fur et à mesure du temps.
C'est un bois, c'est pas une forêt, mais c'est quand même assez important. Est-ce qu'il y a aussi des nouveaux moyens technologiques qui permettent de cibler? Drones, caméras thermiques. Alors non, j'essaie de trouver des moyens technologiques qui permettent de dire on va pas tout remuer, on va tout soulever, on va viser des endroits parce que
ils vont déjà partir du point où on a retrouvé ce crâne et ses vêtements. Et puis essayer de d'élargir ce périmètre en fait. Hein.
Il y a Allez-y, pardon.
Pardon, non, mais parce que ce radar qu'on utilise en temps normal pour voir si le sol a été creusé, là, ça va pas être possible de l'utiliser, quoi. C'est un milieu humide qui peut changer avec les intempéries, les inondations, etc. Donc ça va pas être possible de l'utiliser. Donc il va falloir trouver d'autres moyens, mais ça va être compliqué. Hein, ça va être compliqué. Bah,
nous avons tous beaucoup d'espoir et les familles ont beaucoup d'espoir sur l'équipe de la police scientifique, puisque souvent elle est demandée. Le responsable est demandé pour travailler par le pôle Colquais, avec qui j'ai de rapports très proches. D'ailleurs, cette histoire aurait dû être mise au pôle Colquais et pas rester sur Lyon. C'est là le problème. Mmh. Mais bon, c'est comme ça.
Et pourquoi ça s'est pas fait? Pourquoi le pôle Colquais l'a pas pris?
Parce que le procureur ne l'a pas demandé. C'est le procureur qui doit le demander. Oui. Il a voulu le garder. Voilà. Bon, c'est son problème, mais il va falloir faire le travail. Hein.
Parce qu'en décembre 2000, quand Émile Louis il avoue aux gendarmes, pensant que c'est prescrit, les gendarmes ont un réflexe de gendarme excellent, évidemment, c'est de l'amener tout de suite, il est à Draguignan, je crois, de l'amener tout de suite à l'endroit. Et donc, il désigne sept emplacements. Est-ce que c'est un grand périmètre? On n'en retrouve que deux à l'époque.
Non, ce n'est pas un très très grand périmètre. Mais
il y a deux bois dans le bois, c'est ça.
On nous a indiqué que c'est vrai, c'était fin décembre, c'est vrai, il pleuvait, c'est vrai, les conditions météo n'étaient pas bonnes, mais on pouvait très bien décaler au mois de mai pour continuer, puisqu'on avait déjà deux corps. Hein, donc voilà. C'est comme ça. Vous savez, on fait avec ce qu'il y a sur place. C'est pour ça que des fois, emmener à l'extérieur une affaire, c'est quand même quelque chose de plus intéressant. Mais là, je pense qu'ils sont en train de tout raser. et ils vont tout gratter, hein, je pense.
Ça peut prendre combien de temps selon les informations que vous avez? Alors, je vous pose la question à l'un et l'autre.
Trois semaines. Alors on nous dit 8 jours, mais 3 semaines parce que sur les panneaux d'arrêtés municipaux, pas approchés, etc., c'est 3 semaines. Il faudra bien ça.
Ils ont commencé déjà par un travail d'élagage et de préparation du terrain, parce qu'on l'a dit, et vous avez raison de le signaler, le sol, la végétation a énormément bougé au cours des dernières années. Alors, les recherches, on a fait énormément de progrès. Maintenant, on a ce qu'on appelle les géoradars, même si là, l'utilité...
C'est le mot que je cherchais tout à l'heure.
On a des spécialistes en topographie aussi pour voir si les sols ont bougé, s'il y a eu des mouvements, des choses qui ont été notamment utilisées dans les recherches du corps d'Estelle Mouzin dans les Ardennes, sans réussite à ce stade. Mais peut-être que les moyens techniques, l'IRCGN, il faut savoir qu'il y a 450 gendarmes qui sont mobilisés sur cette campagne de fouilles. La justice, c'est une campagne de fouilles, la justice a mis 100 000 euros alors qu'Émile Louis est mort depuis 12 ans, alors que Marie-Jeanne Coussin est disparue depuis 50 ans.
Oui, mais on ne sait pas si Marie-Jeanne Coussin a été
assassinée. Voilà. Elle ou quelqu'un d'autre, parce qu'on peut aussi retrouver une autre victime sur ce secteur-là.
C'est un parcours meurtrier déjà accablant, et quand on en parle comme ça, on a aussi le sentiment que ça pourrait ouvrir sur d'autres choses.
Oui, c'est ça, parce que c'est vraiment l'honneur de la justice française de faire ses recherches. Ouais. Elle le doit aux familles. Ouais. Et puis, tout a changé en quelques années. C'est vrai qu'au début des années 80, Christian Jambert a lui tout seul et l'honneur de la gendarmerie, franchement, d'avoir décidé qu'il y avait quelque chose et de creuser. C'est vrai que le tribunal d'Auxerre, c'est un désastre judiciaire.
Il y a eu des errements de la justice sur ce dossier pendant des années. On a perdu le dossier. C'est-à-dire que quand Émile Louis a avoué, le dossier avait été perdu.
Donc aujourd'hui, je crois que le procureur d'Auxerre est bien décidé à...
Oui, enfin, il a fallu quand même que l'avocat Didier Seban donne toutes les pièces du dossier d'Émile Louis, parce qu'on savait pas.
Ça avait été perdu.
Vous savez qu'au tribunal d'Auxerre, on a perdu aussi un squelette de femme. Enfin, voilà quoi.
Alors, sachant qu'au tribunal d'Auxerre, c'est là aussi que Michel Fourniret s'installe en 1987, quand il sort de prison. Il y a 3 disparus de Fourniret, hein. Isabelle Laville, Marie-Angèle Domès et Johanna Parrish. Monique Olivier a été jugée il y a 2 ans pour ça. Ça aussi, ça a été un parcours du combattant judiciaire.
Franchement, on est ravis qu'il y ait des fouilles qui soient faites, mais bon, il faut aussi que l'environnement soit étudié, il faut que les gens travaillent dessus, parce que c'est pas encore des journalistes qui vont sortir encore une affaire en disant, c'est pas Émile Louis, mais on a des gros soupçons sur, voilà.
La piste Michel Fourniret a été étudiée dans le cadre de la disparition de Marie-Jeanne Coussin.
Mais est-ce que ça met un climat particulier autour de ce bois, dans cette région, autour de la façon dont les choses sont jugées, autour des disparitions avérées ou des disparitions qui peuvent arriver? Est-ce qu'on, la population de cette zone-là vit avec cette espèce de... Alors,
Il y a eu un petit sondage qui a été fait par ici au Auxerre, où je trouvais que la question était déplacée, enfin pour moi, en disant, mais est-ce que vous n'en avez pas marre que Lyon toujours a fini à ça? Eh ben, sur les 30 réponses à peu près, je dis ça à quelques réponses près, non, les gens disent, il faut
en parler.
Oui, lorsque vous discutez, alors si vous discutez avec des politiques, oui, vous salissez le département, je l'ai encore entendu il y a très peu de temps, en disant, ça va, les fouilles fourniraient, c'est bon, quoi. Ça serait votre fille, vous voulez que je vous donne le téléphone du papa d'Estelle Mouzin? Ouais, mais ça fait 20 ans. Ah bon, si votre fille, au bout de 20 ans, vous la cherchez pas, on n'est pas sur le même bateau, je suis désolé. Aucun homme politique, notre association date de 1982. Nous ne sommes invités à aucune, les vœux du préfet, etc.
C'est pourquoi, parce que on vous accuse de remuer, j'ai pas fini ma phrase, mais de remuer ce qu'il faut pas remuer. C'est ça le reproche qu'on vous fait.
Bien sûr.
Alors, à propos de remuer, pour terminer, Gilles Rex envoyait des images de nouveau de ce bois. Combien de temps? On disait 3 semaines, c'est le créneau. Mais voilà, quand on voit ça, qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qu'ils vont faire précisément sur place? Et quand peut-on, parce que la zone est évidemment pas immense, mais elle est quand même boisée, c'est le minimum pour un bois, mais elle est quand même importante.
Ils vont sonder, ils vont quadriller des zones de pertinence, en fait, qu'ils vont trouver utiles, ils vont sonder, ils vont utiliser des détecteurs de métaux, ils vont utiliser toute la technologie possible, et puis ça prendra le temps que ça prendra, et ça s'arrêtera aussi vraisemblablement à un moment ou à un autre, sur décision des procureurs et puis des enquêteurs en commun accord, en fonction des découvertes.
Estelle Mouzin, il y a eu 10 de campagnes de fouilles, donc voilà, quand la justice veut mettre des moyens et veut insister, elle peut le faire.
Il faut vraiment, sur ce département, monter un pôle cold case comme à Grenoble, où il y a eu des dysfonctionnements comme dans Lyon, et ça donne de très bons résultats, mais il faut qu'il y ait des gens qui travaillent dessus. Alors c'est vrai que, mais oui, mais c'est pas nous qui salissons, hein, c'est parce que on bloque, il y a des gens qui bloquent à des endroits, ben voilà.
Merci à tous les trois d'avoir été sur le plateau pour évoquer les suites et peut-être les rebondissements et les derniers développements autour d'Émile Louis, mais visiblement on l'a compris, pas forcément seulement autour d'Émile Louis.